La scène nationale du Parvis à Ibos dans les Hautes-Pyrénées vient de présenter sa nouvelle saison 2019-2020.
Et notre correspondant à Tarbes, Jean-François Courtil, a rencontré Marie-Claire Rioux, la directrice du Parvis, et Emmanuel Gérard, le conseiller musical de la scène nationale. Cette nouvelle saison sera marquée entre autres par toute une série de spectacles délocalisés, près d'une trentaine en tout, dans différents lieux des Hautes-Pyrénées.
L'expérience qu'on a menée l'année dernière avec la littérature du XIIe siècle, avec la chanson de Roland et le roman de Renard, nous a encouragés, au vu de leur succès, à organiser en fait un peu à jet continu comme ça des spectacles en itinérant sur le territoire. Et on retrouvera donc Tristan et Iseult très rapidement. Hein, en début de saison, et puis on redécouvrira également Trahison d'Harold Pinter qui sera présenté à Campan, et puis on aura également C'est quoi le théâtre, donc qui sera en série, et puis j'en oublie un qui était Ahmed philosophe. Enfin, on aura comme ça des projets à jet continu toute l'année.
Vous insistez aussi sur la valorisation de nouveaux artistes et des artistes qui n'ont pas forcément encore très connus du grand public, mais qui pour vous signifient déjà une évolution majeure dans leur art.
Oui, en ce sens, il y a une artiste qui est assez représentative dans notre programmation, on va dire chanson au sens large. Une jeune artiste qui s'appelle Clara Isé, qui nous a tous dans l'équipe beaucoup surpris, parce qu'elle prend totalement le contre-pied de ce qu'on a l'habitude d'entendre, si je puis dire. On y retrouve un peu le souffle des Catherine Ribeiro, des Léo Ferré, des Brigitte Fontaine, avec une puissance, une ampleur vocale assez étonnante. Voilà, c'est le type d'artiste qu'on a envie de faire découvrir. Ou dans un registre tout à fait différent, mais toujours une autre musicienne qui nous vient du Liban, qui s'appelle Yumna Saba et qui joue du oud. Alors on pourrait dire qu'on est seulement dans la musique traditionnelle proche-orientale, mais on découvre aussi que cette scène proche-orientale, elle se mixe avec tout ce qui est de l'ordre des influences électro, pop, folk, tout ce qui vient d'Occident finalement.
Vous continuez aussi à valoriser la culture de notre voisin espagnol à travers une séquence et avec plusieurs spectacles, Marie-Claire Rioux.
Oui, alors c'est plus que valoriser, c'est plutôt collaborer avec, construire ensemble. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que les artistes s'arrêtent aux frontières. Ils sont un petit peu comme dans les oiseaux d'Hitchcock, ils sont migrateurs, les artistes. Et évidemment, on devait d'abord travailler avec nos plus proches voisins. On a entamé de nombreux voyages depuis 2-3 ans dans leur pays. Ils sont venus chez nous et au bout du compte, eh bien, on commence à avoir une très bonne connaissance de ce que fait toute une nouvelle génération d'artistes en Espagne et eux, de ce qu'on produit en France. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir une espèce de translation comme ça, et puis de répondre également, alors, parce qu'il y a une inflexion dans la région, beaucoup de gens ont des origines espagnoles. Ça n'est pas une raison pour n'être tourné que sur ces origines, bien au contraire, et c'est sur la raison de dire, on montre des nouvelles générations d'artistes espagnols, pour ne pas le bloquer dans le passé ou dans des représentations anciennes. Ça, c'est très impressionnant. On a par ailleurs, on recevra Rocío Molina, on recevra Galván, on recevra, donc là, on est aussi dans l'idée du flamenco, mais un flamenco totalement explosé par rapport au code du flamenco traditionnel. Mais dans cette séquence espagnole, on démarra par un spectacle français qui est l'adaptation du roman de Didi Salver, Pas pleurer. Voilà, tout simplement, avec deux comédiens au plateau, c'est extrêmement intéressant parce que le roman est beau. Le roman n'est pas simpliste, le roman est d'une belle complexité humaine pour reprendre un peu le cheminement de ce que peut être quelqu'un qui résiste. À la fois l'histoire de sa mère, Montse, qui découvre la liberté sexuelle un peu en même temps que la liberté politique, c'est de courte durée puisque les franquistes prennent le pouvoir, et il y a une collusion de l'Église à ce moment-là qui oblige effectivement, on est dans la guerre civile, les Espagnols fuient. Mais ce que traite aussi dans Pas pleurer, Lili Salver, c'est le revirement de Bernanos, qui est catholique, fervent, et qui est totalement choqué par la position de l'Église. Voilà, et puis on aura un autre spectacle qui s'appelle Ramatria, qui renvoie un peu à la même chose, en quelque sorte, mais là, d'une manière très expressive, un peu à l'Angelical Idol, sous forme de performance. C'est un spectacle documentaire sur, globalement, toutes ces femmes, ces femmes qui ont perdu un fils ou un mari pendant le franquisme. Alors, non seulement elles l'ont perdu, mais ce dont veut parler Matria, c'est qu'elles n'ont pas pu en parler, parce que la dictature a duré longtemps et qu'il a fallu vivre avec cet oubli-là. Cet oubli institutionnel. Donc c'est un petit peu le sujet. Puis on aura un spectacle absolument d'objets, de théâtre d'objets, un petit peu à la façon de ce que faisait le FUN dans Légumes, avec un petit gradin, un petit castelet, plein de petits objets animés. Ça s'appelle La Mélancolia del Turista, qui est un spectacle sur nos comportements de touristes, avec cette accumulation d'objets, de cartes postales, de petites choses avec de la neige, là, je ne sais plus, voilà. C'est un petit peu tout ça, c'est formidable. Et puis, on aura un très grand spectacle qui se présente comme une leçon de géopolitique, qui s'appelle Birdie, qui sollicite vraiment la participation du public, qui est un spectacle multimédia, en fait, également, qui présente Birdie, c'est les oiseaux d'Hitchcock, qui reviennent de temps en temps comme ça. Et puis, c'est l'idée de deux mondes, l'un, celui de la déforestation, de la misère croissante, et puis l'autre, le monde des pays riches, de la surconsommation, du réchauffement de la planète. Et entre les deux, eh bien, il y a des oiseaux, qui sont des migrants. Voilà. C'est un petit peu ça. Là. Elle sera assez joyeuse, hein, parce que Birdie est quelque chose aussi qui n'est pas... Voilà, ce sera un grand moment de rencontre, je pense, avec les professionnels espagnols aussi. On ira un petit peu au-delà de la rencontre. On aura la présence de Lydie Salver, qui passera quelques jours chez nous et qui ira, je pense, rencontrer les classes et fera peut-être quelques visites aux médiathèques. Voilà.
Vous vous adressez aussi, bien entendu, au public le plus jeune, et notamment vous lancez cette année pour la première fois un festival qui s'appellera Le Grand Jeu.
Oui, le grand jeu, c'est l'idée de faire en sorte que sur une période qui va être à la fois sur le temps scolaire et sur les vacances, que le Parvis devienne un vrai lieu de vie pour les enfants et leurs familles et leurs enseignants. Quoi. Ça ne se borne pas à être simplement du spectacle ou du cinéma, qui serait juste, entre guillemets, une sorte de consommation. Mais au contraire, on veut vraiment interagir avec eux de la manière la plus large possible, faire en sorte qu'il y ait des ateliers de découverte, de pratique, des choses très participatives. Et ça sera effectivement ponctué après par des rendez-vous au plateau et puis dans les salles de cinéma. Au plateau, on retrouvera des formes qui tiennent de la danse et du théâtre. Il y a une première proposition qui s'appelle Métamorphone, qui est un regard très drôle finalement sur la danse et sur l'histoire de la danse aussi, puisqu'on part de Debussy pour aller jusqu'au beatbox, en utilisant des moyens multimédia assez poussés, puisqu'on a une scénographie comme ça qui défile de manière plastique au plateau. Il y a une seconde proposition, alors Marie-Claire en a parlé un petit peu tout à l'heure, qui s'appelle Ahmed revient. Qui est un spectacle pour tout le monde, j'allais dire, mais c'est intéressant de faire en sorte que Ahmed, si je puis dire, cette personnalité puisse s'adresser aux adolescents, parce qu'il pose la question de la justice, parce que ce personnage qui est né dans la tête du philosophe Alain Badiou, il arrive, il a toujours des choses intéressantes à dire, comme les valets, comme que ce soit Arlequin, Figaro, voilà, toutes ces figures historiques venues de la Commedia dell'arte et qui dialectisent, quoi. Et puis après Ahmed, eh bien, nous aurons un spectacle qui s'appelle Prince le Petit, plus un spectacle sur la mort, mais qui n'est pas de manière aussi grave. C'est vraiment sur la résilience et sur comment affronter finalement une situation difficile. Comment, en tant qu'enfant, on va affronter ces situations-là. C'est un très beau spectacle avec une scénographie très impressionnante. Et puis, on aura pour finir une forme, alors là, sans doute plus inattendue, mais qui est le résultat d'un travail que deux artistes, Barbara Matijevich et Gianni... Giuseppe Cicco, pardon. Mène un peu partout dans différents endroits de France et d'Europe, avec des adolescents qui, par définition, sont nés avec Internet. Et eux partent du principe qu'on ne peut pas imaginer un spectacle alors que dans nos têtes, on a fait nos transitions, s'adressant à un public qui, lui, est né avec le portable à la main, d'une certaine manière. Et c'était leur comportement qu'ils avaient envie de connaître, de comprendre, pour arriver à trouver de nouveaux modes de récit, de nouveaux modes de récit au plateau qui, justement, viennent puiser dans cette matière, cet ensemble d'écrans foisonnants qui nous entourent, quoi.
Vous avez prévu aussi une étape importante en direction des familles pour Noël.
Oui, on aura pas mal de choses, et notamment un très joli spectacle qui s'appelle Hansel et Gretel, qui est sur la question, en fait, de la malbouffe. La maison de pain d'épices est transformée ici en vaste hamburger et autres morceaux de pizza. C'est un spectacle chorégraphié. C'est absolument délicieux à regarder et intéressant sur le fond. Et puis, on aura aussi installé pendant toute la durée des vacances une cabane. Nous allons installer une cabane aux ateliers, une très, très grande cabane, très belle, qui s'appelle la cabane aux histoires, où les enfants entre 6 et 12 ans pourront venir, ou seuls, ou avec leurs parents, ou leurs grands-parents, ou leurs tontons, enfin bref, écouter une histoire qui s'appelle T'imagines, qui est inspiré de ma vie de courgette, où on retrouve comme ça des tas de personnages. Donc c'est une sorte de rendez-vous radiophonique, mais avec des projections d'images, etc. Et ce projet a été imaginé par Rémi Barchet, entre autres, et Fabien Joubert. Rémi Barchet qui nous avait offert cette année ce spectacle énorme qui s'appelait La Truite.
Vous êtes aussi fidèle à la dimension du lien entre le cinéma et l'opéra, avec à nouveau plusieurs rendez-vous de l'opéra au cinéma. Emmanuel Gérard, vous êtes bien sûr sensible à cette dimension.
Oui, parce qu'on a toujours pensé que c'était une des possibilités d'accéder aux œuvres. L'opéra reste une chose impossible à présenter dans n'importe quel espace. Il y a des maisons d'opéra, c'est pas un hasard pour ça. Ça nécessite forcément un environnement très très important. En revanche, la question de ces retransmissions en direct, avec la qualité technique qu'elle offre aujourd'hui, elle offre véritablement la possibilité d'ouvrir au plus grand nombre un répertoire qui ne demande qu'à être découvert. Et on se rend compte au fur et à mesure que les conditions de retransmission font qu'on peut vivre, on a véritablement l'impression de vivre ça au plus près. Donc, on fait des choix de programmation dans ces retransmissions du Metropolitan Opera de New York, de manière à ce qu'il y ait toujours cette espèce d'équilibre entre des grands repères et des véritables découvertes.
Voilà, alors vous pouvez retrouver l'intégralité de la prochaine saison du Parvis, scène nationale, sur leur site internet, le www.parvis.net.